Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Toujours un moment que vous appréciez, que j'apprécie aussi énormément. Bonjour Christian Page.
Bonjour.
Bon, et il m'arrive toujours avec des histoires dont je n'ai souvent jamais entendu parler, mais qui sont tellement le fun à découvrir. Et là, on s'en va en 1900, dans les années 40.
Oui, voilà. Un événement qui va marquer, en fait, la culture populaire. C'est pas simplement un événement qui marque le domaine de l'étrange et de l'insolite. Ça va marquer profondément la culture populaire. Alors, tu le mentionnes, on est en 1947. On est un 24 juin 1947. Donc, aujourd'hui, 71 ans jour pour jour. Donc, ce matin-là, le héros du jour s'appelle Kenneth Arnold. C'est un individu qui est un sous-traitant pour des compagnies qui fait de la fourniture pour des équipements pour combattre les incendies. Donc, ce matin-là, on est sur la côte ouest américaine. On est dans une ville qui s'appelle Chehalis, dans l'État de Washington. Il passe son avant-midi à installer des équipements pour des clients. Et puis, il entend parler ce matin-là, que quelques semaines plus tôt, un avion de l'armée américaine, un C-46, s'est écrasé sur l'un des flancs du mont Rainier. Il faut savoir qu'on est... Mmh. Il y a la chaîne des montagnes Cascades, qui est un peu le prolongement de nos montagnes rocheuses. Et là, il apprend qu'un appareil de l'armée américaine s'est écrasé et que l'armée offre 5 000 $
de récompense
à quiconque pourra repérer l'épave. Parce que l'appareil s'est écrasé durant l'hiver. Et là, bon, on arrive au début de l'été. Alors, Kenneth Arnold quitte, il est à peu près 14 heures. Il décolle de l'aéroport de Chehalis, il a son propre avion. Et il décide de mettre le cap sur le mont Rainier. Il doit se rendre à Yakima, toujours dans l'État de Washington. Il dit, je vais faire un crochet par le mont Rainier.
Mais il y allait spécialement pour avoir la récompense?
Oui, c'est ça. Donc, il doit faire ce jour-là un envolé de Chehalis à Yakima, mais puisqu'il est en l'air, il dit aussi bien faire un petit crochet.
Faire un petit 5 000.
Voilà, je vais passer au-dessus du Mont Rainier. Qui sait si je vois l'épave en question? Comme l'été, depuis quelques semaines, il fait chaud, les neiges ont reculé. Alors, il se dit peut-être je pourrais localiser l'épave. Alors, il se trouve à peu près à la hauteur du Mont Rainier. Il scrute les flancs de la montagne et là, soudain, son attention est attirée par des flashs dans le ciel. Il regarde, plisse les yeux, une belle journée ensoleillée. Il est à peu près à 14h30, 14h45. Ce qu'il voit, il voit 9 objets qui forment un V dans le ciel. Donc, une rangée de 4 objets, une autre rangée de 5 objets. Ces objets-là, dont il plisse les yeux, ouvrent l'une des fenêtres latérales de son avion pour être bien certain qu'il ne s'agit pas de reflets sur le hublot. Au début, il pense bien sûr à des missiles, à des avions, d'autres trucs semblables, mais la façon dont se déplacent ces objets l'intrigue beaucoup. Il a l'impression que les objets sautillent dans l'air. Et là, il distingue assez clairement les objets alors qu'ils bougent et renvoient des reflets vers son avion, comme si le soleil brillait sur les ailes, entre guillemets, de ses engins.
Il y avait du métal.
Voilà. Et ce qu'il décrit à ce moment-là, en fait, ce qu'il voit, ce sont des objets qui ressemblent à des espèces de boomerangs volants avec un centre beaucoup plus sombre. Comme c'est un pilote, il fait un calcul que les gens qui font de la navigation, soit sur mer ou en l'air, là, des pilotes d'avion, connaissent bien un calcul par triangulation. Il connaît sa position, connaît la position du mont Rainier, connaît la position du mont Adams vers lequel ces objets se dirigent. Et là, il fait un calcul. Et selon son estimation, les objets ont à peu près la taille d'un avion, d'un jet, mais ces appareils se déplacent à 2700 km à l'heure.
Ils se suivent tous.
Ils se suivent tous. Donc, c'est un peu comme un V dans le ciel.
Ouais.
Or, il faut savoir qu'en 1947, on n'a pas encore franchi le mur du son qui est à 1200 km à l'heure. Ces objets-là vont un peu plus de 2 fois la vitesse du son. Kenneth Arnold est très intrigué par ce qu'il voit. L'observation va durer à peu près 2 minutes et demie. Il se pose un peu plus tard, donc, à Yakima. Il débarque de son avion, discute autour de lui. Personne n'a vu ces objets à part lui. Il en parle à d'autres pilotes qui lui disent « t'as probablement vu des avions, t'as probablement vu des missiles ». Mais ce Arnold, non convaincu, va se présenter au bureau du FBI parce qu'il est persuadé que ce qu'il a vu doit être des engins russes. Mais si on veut envahir les États-Unis, aussi bien le faire un vendredi après-midi, le bureau du FBI est fermé.
Fermé le vendredi après-midi.
C'est fermé le vendredi après-midi.
Toi, tu savais ça, il prend le congé.
Donc voilà, le Kenneth Arnold, toujours non convaincu de ce qu'il a observé, reprend son avion, s'en va à Pendleton. Là, cette fois, on est rendu en Oregon. Il débarque en début de soirée et se présente à un journal local, le East Oregonian. Et là, il rencontre les journalistes et raconte son histoire. Et là, en fait, c'est l'histoire qui est en marche. Il raconte à un journaliste ce qu'il a vu. Le journaliste lui pose la question, mais ce que vous avez vu, ça devait se déplacer comme des avions. Et là, Arnold dit non, non. Ils ont avaient l'impression que c'était comme, il prend une pause, il dit, comme des soucoupes que l'on aurait fait ricocher sur une mare d'eau. Et le journaliste de publier le lendemain dans la presse, un pilote a vu des soucoupes volantes.
Ah, c'est de là que l'expression est née.
L'expression est née. Les soucoupes volantes viennent d'apparaître dans la culture populaire. Le lendemain, le journaliste donc publie cet article et bientôt, cette histoire de soucoupes volantes est sur toutes les lèvres. Tout le monde parle de ça. On ignore ce que c'est. Et écoute, Marie-Hélène, pour ceux qui nous écoutent, partez votre enregistreuse parce que j'ai sorti de mes archives un enregistrement de 1947, parce que évidemment tout ça, ça alimente énormément la presse. Les journalistes veulent avoir de la bouche du cheval ce qui s'est passé. Et on communique avec Kenneth Arnold. Et le lendemain, donc le 25 juin 1947, il est à une petite radio dans l'État de l'Oregon. Et voici comment il raconte son histoire. Ouais. C'est 1 minute 30. C'est peut-être long si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare, mais c'est une pièce d'anthologie. C'est
on
en anthologie.
Newscaster and every newspaper across the nation has made headlines out of it, and this afternoon we are honored indeed to have here in our studio this man, Kenneth Arnold. Kenneth, first of all, if you'll move up here to the microphone just a little closer, we'll ask you to just tell in your own fashion, as you told us last night in your hotel room and again this morning, what you were doing there and how this entire thing started. Go ahead, Kenneth.
Well, at about 2:15, I took off from Chehalis, Washington, en route to Yakima, and I climbed back up to 9,200 feet, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite, kind of weaving and going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. I at first thought they were geese because it flew like geese, but it was going so fast that I immediately changed my mind and decided it was a bunch of new jet planes in formation. They seemed to flip and flash in the sun just like a mirror. And as I kept looking at them, I kept looking for their tails. They didn't have any tails. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes.
Et c'est impressionnant quand même.
Absolument.
Il est devenu une vedette, j'imagine, ce monsieur-là.
Absolument. Et en 1952, il va publier un premier livre dans lequel il raconte toute cette histoire-là. Et ce qui est amusant ici, c'est l'événement qui va marquer l'apparition des soucoupes volantes, l'ère moderne des soucoupes volantes naît avec l'apparition, cette observation de Kenneth Arnold. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, on voit aussi comment la culture populaire va s'ajuster au récit. En ce sens que Kenneth Arnold n'a jamais vu de soucoupes volantes. Il a vu des boomerangs volants qui se déplaçaient comme des soucoupes volantes, comme des soucoupes
qu'on faisait ricocher sur le mât. Ben oui, parce que ça n'avait pas du tout la forme d'une soucoupe,
non,
ce qu'il avait vu.
Quand il prend l'expression soucoupe, c'est pour décrire le mouvement des objets. C'est pour faire une analogie avec le mouvement des objets, non pas la forme des objets. Et il y a cette erreur journalistique lorsque le journaliste, en Bill Beckett, écrit cet article. Il dit un pilote a vu des soucoupes volantes. Il fait cette confusion et c'est amusant parce que du jour au lendemain, des gens vont se mettre à voir des soucoupes volantes.
Mais ça a été représenté dans des films.
Voilà.
Les premiers films d'OVNI
montrent des soucoupes volantes. Oui, c'est dans la foulée de l'observation de Kenneth Arnold. C'est vraiment un événement qui va marquer, comme je l'ai mentionné, c'est sûr que ça marque l'histoire des ovnis. Les gens qui s'intéressent aux ovnis, c'est l'événement zéro. Hein? C'est à ce moment-là que ça commence. Mais évidemment, tu en fais référence. À partir de là, le cinéma va décrire ces objets-là comme des disques volants, alors que dans les faits, Kenneth Arnold a vu une espèce de boomerang volant.
Et on n'a jamais documenté, on n'a jamais su ce qu'il avait vu officiellement.
En fait, on a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. On n'a pas d'explication définitive. L'hypothèse qui est prédominante dans le milieu, Kenneth Arnold aurait pu être... lui-même le mentionne. Quand tu écoutes son témoignage, il dit « Au début, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir des oies ou des outardes. » Et effectivement, l'hypothèse dominante, Kenneth Arnold aurait confondu en vol une volée de bernache canadienne.
Il volait à deux fois la vitesse du son?
Non, c'est ça. Donc, il aurait commis une erreur. Les objets étaient beaucoup plus proches qu'il ne le croyait. Donc, lui, évidemment, calcule que ces objets-là doivent être au-dessus du mont Adams. Il les éloigne de plusieurs kilomètres alors que ces objets-là sont beaucoup plus près.
Ah.
Et là, donc, en faisant cette erreur de calcul, tout tout ça nous amène à une série
de confusions. Ah, ben là, on voit l'image parce qu'on les voit souvent, les outardes voilà. passer.
Et donc, quand les outardes bougeaient, donc, évidemment, ils reflétaient la lumière du soleil. Et là, ben, Kenneth Arnold a cru que c'était des engins, des avions. Donc, évidemment, ce n'est pas une explication définitive. C'est une hypothèse qui a été proposée. C'est vrai qu'à cette période-là de l'année, c'est la période à laquelle les Bernaches vont sur cette migration.
Se déplacent
par migration. Et Arnold aurait pu confondre un vol d'oiseau, finalement, assez mystérieux.
Mais là, on sait d'où vient l'expression soucoupe
volante.
Voilà,
c'est l'expression soucoupe volante est née de ça.
Et Kenneth n'a jamais eu la récompense de 5 000
$ Non, non, il n'a pas observé le C-46 perdu dans les montagnes des Cascades.
Bon, on te garde avec nous, okay. Christian. On s'arrête pour les informations. Puis au retour, on va parler de cette boule de feu qui avait traversé le ciel de la Russie.
De la Russie, l'affaire de la Tunguska sibérienne.
Au retour.
Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Mythes et complots.
On est encore dans le ciel,
oui,
Christian Page, mais dans le ciel de la Russie centrale, cette fois.
Et là, je t'amène, écoute, on va faire un bond dans le temps. On est le 30 juin 1908. Il est 7h13. Soudain, une boule de feu énorme apparaît dans le ciel au-dessus de la Russie centrale. Quelques instants après, une onde de choc est ressentie à travers le monde. À 1000 kilomètres du point de l'épicentre, à Irkoutsk, les sismographes ont enregistré une vibration équivalente à un tremblement de terre de 5,5 à l'échelle de Richter.
C'est beaucoup, là.
C'est énorme. À Londres, où c'est encore la nuit, il est 7h13 en Russie centrale.
On a ressenti la secousse.
Mais à Londres, où c'est encore la nuit, le ciel va s'éclairer d'une lueur à un point tel que les journaux vont raconter que dans les rues de la capitale britannique, on pouvait lire le London Times en pleine nuit dans la rue.
Ça, c'est drôle.
Et le London Times, c'est des petits caractères. Donc, on faisait cette référence-là. Cet événement, dans l'histoire de l'humanité, aucun événement semblable n'a jamais été rapporté. L'explosion produite par cet événement-là est 1000 fois plus puissant que les bombes d'Hiroshima et Nagasaki combinées. Donc, tu t'imagines cet incroyable événement de la... Il est tombé dans une région, heureusement, l'objet est tombé visiblement dans une région inhabitée, en fait à 63 kilomètres d'un tout petit village, Vanavara. Et heureusement, c'est une région qui est très peu peuplée, si ce n'est quelques petites communautés autochtones, des autochtones qu'on appelle les Mansi, qui sont les descendants des troupes mongoles qui ont occupé cette région-là de la Russie. Mais, somme toute...
Il n'y a pas eu de victimes?
Il y a eu des victimes dans ces populations.
Mais moins que ça aurait...
Que si l'événement s'était produit au-dessus d'une grande capitale, comme Londres, Moscou ou encore Paris. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est donc, on spécule, quel est l'événement, quel est cet objet qui est tombé dans la Tunguska? Parce que, évidemment, l'objet a dû frapper le sol pour enregistrer cette secousse sismique qui, comme je te l'ai mentionné, a été ressentie partout à travers le monde. On raconte que l'onde de choc a fait 2,5 fois le tour de la Terre. Jamais, comme je l'ai mentionné, un événement semblable ne s'est produit dans toute l'histoire de l'humanité. Depuis que l'homme existe, on n'avait jamais documenté un événement comme celui-là. Et étrangement, il va falloir attendre... L'événement se passe en 1908. Il va falloir attendre 1927 avant que un premier contingent qui sont membres de l'Académie des sciences de Moscou, se rendent sur place. L'endroit est très difficile d'accès.
On ne
pouvait pas y accéder. Il y avait également des troubles. Il y a la révolution bolchevique a suivi, etc. La Première Guerre mondiale. Donc, il faut attendre. Et la première troupe, donc, en 1927, vont se rendre sur place. Ils vont mettre des semaines à approcher de l'endroit. Et ils vont... outre la difficulté du terrain, il y a également des moustiques. Et je dois t'avouer que dans les comptes rendus que j'en ai lus, les moustiques là-bas font les mouches noires de l'Abitibi font piètre figure.
OK, donc les gens qui se plaignent des mouches en Laurentides n'ont rien vu.
Donc, celui qui dirige l'expédition est un scientifique qui s'appelle Leonid Kulik. Et plus il approche de l'endroit où l'objet est tombé, on est à peu près à 300 kilomètres de l'épicentre. Et là, déjà, on commence à voir dans la forêt des marques laissées par cet objet qui s'est quand même...
20 ans plus tôt.
20 ans plus tôt a frappé. Ouais. On voit des marques d'incendie. Et là, on rencontre des villageois qui racontent des histoires épouvantables. Un vent a soufflé, a désarçonné des cavaliers. Des murs de feu se sont dressés dans la forêt. Des animaux ont été soufflés par cet extraordinaire événement. À peu près à 20 kilomètres de l'épicentre, Kulik commence à voir des arbres qui sont couchés en ligne rayonnante, hein, comme si on lancerait un caillou dans une mare d'eau et on voit ce cercle qui se déploie. On est à 20 kilomètres de l'épicentre. Les arbres, on commence à voir des arbres, bien sûr, calcinés, brisés, déracinés. Et plus on approche de l'épicentre, plus c'est marqué. En fait, il y a près de 60 millions d'arbres qui ont été couchés, déracinés par le souffle de l'explosion. Et quand Kulik arrive à l'endroit au point zéro...
Là, tu m'intrigues, là.
Il n'y a rien.
Oh, quelle déception.
Il n'y a rien. Pas de cratère, pas de marque, rien. Uniquement le souffle de l'explosion est encore visible. Alors, évidemment, tous ceux qui avaient imaginé la chute d'une météorite qui avait frappé le sol, ouais, évidemment, restent un peu pantois. Qu'est-ce que c'est?
Parce qu'il y aurait eu des débris. Il y aurait eu des débris. Ouais.
On n'a pas de cratère. Aujourd'hui, l'histoire, l'événement de la Tunguska est probablement une chute d'un objet céleste, comme celui qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Mais pourquoi pas de point d'impact? L'hypothèse dominante, c'est amusant parce qu'on parle d'hypothèse dominante, ce serait une météorite ou encore une comète qui aurait explosé entre 5 et 10 kilomètres d'altitude, qui aurait entraîné ce souffle-là. D'autres ont parlé peut-être que la Terre aurait entré en collision avec un trou noir. Et d'autres, les amateurs de fantastique, imaginent peut-être l'entrée d'un vaisseau extraterrestre qui aurait explosé, entraînant cette extraordinaire dévastation.
Mais une chose est claire, c'est qu'il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quelque chose. Et encore aujourd'hui, on est en 2018, l'endroit où l'objet a frappé, hein, l'objet de la Tunguska, on voit encore une cicatrice dans l'environnement qui témoigne de cet extraordinaire événement unique dans l'histoire de l'humanité, l'objet de la Tunguska sibérienne. C'était le 30 juin 1908.
Fascinant, fascinant. Ouais. Merci beaucoup, Christian
Page. Ça me fait plaisir.
À la semaine prochaine.